Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 12 milliards d'euros dus au crédit à la consommation pourraient ne pas être remboursés l'année prochaine. La faute aux banques, trop gourmandes, trop persuasives, voilà ce que dit ce matin l'UFC Que Choisir. L'association évoque des distributions irresponsables en pleine crise économique, vous l'entendrez.
Et puis nous nous pencherons ensuite sur la présentation du Premier ministre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il détaillera la stratégie vaccinale de la France. L'exécutif veut montrer qu'il prend le temps de répondre aux inquiétudes.
Ville de Marseille cherche nouveau maire. La démission de Michel Rubirola hier fait naître de nouvelles velléités dans la ville. Après cette édition, sachez que nous évoquerons encore de la politique avec le billet de Frédéric Seyss. Il est consacré ce matin à la réforme des retraites.
Et puis d'ici là, Clara, nous serons allés en Suède, car le pays augmente historiquement son budget militaire.
Nous irons aussi au Soudan pour écouter les témoignages de réfugiés éthiopiens. Il manque de tout sur place. Les banques françaises distribuent donc de façon irresponsable les crédits à la consommation. Irresponsabilité d'autant plus grande et dangereuse en ce moment que les Français sont nombreux à voir leur situation financière se dégrader. Ce constat assez lourd est fait ce matin par l'UFC Que Choisir dans un nouveau rapport publié aujourd'hui. L'association de consommateurs note que les crédits ont le vent en poupe. Les publicités pour les proposer prennent différentes formes à leur choix.
C'est un organisme de crédit qui propose de prêter de l'argent tout de suite et de ne commencer à rembourser qu'après les fêtes. Ou encore une célèbre marque de voiture qui propose des reports de remboursement de 6 mois en oubliant de mentionner le coût final de ces facilités pour les emprunteurs. Des publicités irresponsables selon l'UFC Que Choisir qui estime que ces organismes bancaires profitent d'une situation financière extrêmement compliquée pour de plus en plus de Français, à savoir une période de Noël qui incite à la consommation, mais des revenus moindres qui risquent fort de s'amoindrir encore si l'on en croit les prévisions de la Banque de France. Avant même la crise sanitaire, les banques françaises avaient accumulé 9 milliards d'euros d'impayés, ce qui représente en moyenne plus de 1000 euros de dette par ménage. En 2021, l'association estime ainsi à 12 milliards d'euros le montant de ces impayés aux banques, en hausse de 40%.
Et dans le détail, Anne-Laure, il y a des disparités quand même entre les banques qui proposent les crédits.
L'association de consommateurs épingle les mauvais élèves, ceux qui continuent de distribuer des crédits consommation en connaissant le risque, c'est-à-dire l'état des finances de leurs clients, et de citer la BNP Paribas ou la Société Générale. La même Société Générale qui utilise bien moins que les autres banques les outils pourtant en sa possession pour restructurer ses crédits lorsque surviennent des difficultés. Dans ce contexte, la Commission européenne qui s'apprête à faciliter la vente de ces créances douteuses des banques à des organismes de recouvrement, dont les méthodes s'apparentent parfois à du harcèlement, la Commission européenne donc ne traite pas le mal à la racine. Elle devrait plutôt inciter les banques à éviter de vendre des crédits consommation risqués et à accepter de restructurer ces crédits quand le besoin s'en fait sentir.
Voilà ce qu'estime l'UFC Que Choisir. Merci Anne-Laure Chouin. Et je souligne en effet que c'est aussi aujourd'hui que la Commission européenne doit dévoiler son plan d'action pour purger les bilans des banques de leurs créances douteuses. Les Français ont besoin d'être rassurés. Des députés de différents bords ont souligné hier la demande de transparence et de confiance autour de la stratégie de vaccination du gouvernement. Cette stratégie sera présentée cet après-midi à l'Assemblée par le Premier ministre. Jean Castex sera dans l'hémicycle pour rappeler le plan prévu par l'exécutif. Une stratégie en 3 phases. D'abord la vaccination des personnes âgées, puis les personnes fragiles, le personnel soignant, enfin le reste des Français, pas avant le printemps prochain. Alors la discussion avec les députés n'est que symbolique aujourd'hui, mais elle permet de sonder en quelque sorte la population, Stéphane Robert.
Le Premier ministre Jean Castex, cet après-midi à l'Assemblée, ne va pas dire grand-chose de plus que ce qu'il a déjà dit début décembre sur la stratégie vaccinale du gouvernement. Pour Marie Lebec, première vice-présidente du groupe La République En Marche, il s'agit surtout de tenter de rassurer les députés sur la manière dont tout ça va se dérouler et au-delà, par le truchement des députés, de tenter de rassurer les Français.
C'est un débat qui a avant tout une portée symbolique, c'est d'avoir un discours fort, je crois, à destination des Français sur la nécessité et les impératifs de se faire vacciner. J'attends maintenant surtout de voir ce que les oppositions vont dire, parce que je crois qu'en termes de confiance et de transparence aussi dans ce vaccin, le discours politique sera fondamental.
Même si les députés paraissent globalement plus allants que les Français sur la vaccination, ils vont poser des questions et exprimer leurs doutes et leurs craintes. à l'image de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier sur BFM TV.
Ce vaccin, il m'inquiète. Il résulte d'un procédé qui n'est pas celui qu'on connaissait jusqu'à présent. On a tous découvert qu'il existait des ARN messagers. On croise tous les doigts que ce soit la bonne idée. Mais en attendant, on n'en est pas sûr.
Même crainte chez Marine Le Pen la semaine dernière sur France Inter. Elle a déclaré ne pas souhaiter se faire vacciner tout de suite.
Non, je préfère attendre un vaccin traditionnel, en ce qui me concerne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut quand même dire les choses, encore une fois, aux Français, chacun prendra sa décision en responsabilité. C'est qu'on n'a pas de recul.
Les discussions cet après-midi s'apparenteront surtout à un exercice d'explication et de pédagogie du chef du gouvernement, à la suite de quoi chaque groupe politique fera connaître sa position et le débat sera suivi d'un vote non contraignant.
Stéphane Robert, avant ce débat donc dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale prévu à partir de 16h aujourd'hui. Le siège de maire à Marseille est vacant ce matin. Hier, en effet, Michel Rubirola a démissionné pour des questions de santé, explique l'écologiste, 6 mois seulement après son élection. Elle souhaite laisser sa place à son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan, un habitué de la politique marseillaise. Le conseil municipal pourrait voter lundi prochain et déjà l'union de gauche qui avait émergé pendant les élections municipales, cette union semble se fissurer, mise à mal par les coups portés par l'opposition à Marseille. Voici par exemple la réaction de Stéphane Ravier, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône.
Les Marseillais ont quand même voté pour Madame Rubirola, pour qu'elle devienne maire, pour qu'une écologiste devienne maire, et pas que Monsieur Payan, socialiste, ne la remplace sur une sorte de coup de force. Mais alors qu'il pourrait y en avoir d'autres, des candidats qui ont envie d'être maire, qui est la niaque, qui est une détermination, qui est une passion pour cette ville, et pas pour ce qui aura été finalement une fake news. Avec tout le respect que je dois bien sûr à Madame Rubirola, mais elle a été un écran de fumée qu'on a appelé Printemps Marseillais, derrière lequel les écuries de la gauche sont toujours là, avec les mêmes méthodes. Donc on est là en plein déni de démocratie, raison pour laquelle moi j'en appelle un retour aux urnes citoyens marseillais.
Et précisons que seule une démission massive des élus au conseil municipal à Marseille pourrait provoquer de nouvelles élections dans la ville. La perpétuité requise contre le tireur du Thalys en 2015, dont l'attentat avait été déjoué in extremis par des passagers du train. Le verdict dans ce procès est prévu demain. Et puis je rappelle qu'aujourd'hui est attendu le verdict du procès des attentats de janvier 2015. 14 complices présumés étaient jugés. Les enseignements du procès avec 4 chercheurs, c'est sur notre site franceculture.fr. Près de 2 mois après le lancement des bracelets anti-rapprochement pour les conjoints ou anciens compagnons violents, où en est-on ? Cela devait être une mesure importante du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Et bien 2 mois après, la justice a ordonné la pose de 7 bracelets seulement sur le territoire français. Un démarrage poussif qui a poussé le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti à écrire au juge Cécilia Arbonnat.
C'est un courrier de 3 pages aux allures de piqûre de rappel. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'adresse aux magistrats avec gravité. Il écrit « Cela me paraît crucial d'envisager le bracelet anti-rapprochement pour assurer une protection accrue des victimes de violences conjugales. » Une analyse partagée par la procureure de la République d'Angoulême en Charente, Stéphanie Aouin.
C'est dans la phase post-sententielle qu'on a mieux trouvé les profils qui se prêtaient au bracelet anti-rapprochement, c'est-à-dire le tribunal correctionnel avec un multirécidiviste de violence conjugale dont on était quasiment certain qu'en sortie de détention, il ne tiendrait pas forcément ses interdictions d'entrer en contact avec la victime. Le second bracelet qui a été prononcé, il a été par un juge de l'application des peines, également dans le cadre d'une sortie de détention.
1 millier de bracelets anti-rapprochement ont été envoyés aux tribunaux judiciaires, mais pourquoi reste-t-il dans des cartons ? S'interroge maître Isabelle Steyer, avocate à Paris.
C'est un outil qui demande du sur-mesure. Mais si effectivement on a juste le matériel et pas l'intendance, ça va poser problème. On a eu un Grenelle pour cela et on n'a aucune utilisation de ce bracelet. Donc je suis vraiment un petit peu désespérée, oui. Parce que les hommes violents qui n'arrivent pas à accepter la séparation et qui vont suivre leur femme, où qu'elle soit, c'est un outil qui leur permet de ne pas céder à leurs démons. Parce qu'on parle quand même de mort de personnes, là.
En 2019, en France, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou par leur ancien compagnon.
Cécilia Arbonnat, alors qu'aujourd'hui, le bracelet anti-rapprochement est généralisé à tous les tribunaux de métropole et d'outre-mer.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le monde de la culture a montré sa colère hier en France.
Oui, c'est sans attestation, avec la fin du confinement strict dans le pays, que les professionnels du secteur de la culture, effectivement, ont pu manifester alors qu'était mis en place un couvre-feu. Des rassemblements ont eu lieu un peu partout en France contre, je le rappelle, la fermeture des cinémas, des théâtres, des musées, des salles de spectacle, au moins jusqu'au mois de janvier. Ils étaient à Paris, place de la Bastille, hier, 3500 professionnels. Plusieurs théâtres parisiens, par ailleurs, saisissent le Conseil d'État en urgence. Et nos voisins sont-ils mieux lotis? C'est un petit peu mieux pour la culture en Espagne, par exemple. Un peu mieux, car la situation peut être en fait très différente sur place en fonction des régions, Mathieu de Taillac.
Il n'y a pas en Espagne une situation de la culture, une série de règles du jeu, mais 17, comme le nombre de communautés autonomes, les régions espagnoles, et encore, les lois régionales changent toutes les semaines ou presque. En Catalogne, par exemple, on a pu à peu près ne rien faire pendant plus d'un mois, ni cinéma, ni pièces de théâtre, ni concerts, mais depuis 15 jours, les publics peuvent revenir dans les salles à condition de ne remplir que 50% des sièges. À Madrid, en revanche, tout est resté ouvert pendant la deuxième vague, et en Andalousie, tout est possible, mais il faut que ça se termine à 21h. Les artistes, en conséquence, ont intérêt à maîtriser parfaitement la carte d'Espagne des restrictions pour établir, par exemple, les dates de leur tournée. Sans oublier que pour certains secteurs, et pas les moins emblématiques, c'est la double ou la triple peine. Le flamenco, par exemple, est pénalisé à plus d'un titre parce qu'il se produit généralement dans des tablaos, ces salles où l'on dîne en même temps que l'on regarde. Il est soumis aux restrictions imposées à la restauration. Parce qu'il a lieu le soir, il souffre des couvre-feux, et parce que bien des propriétaires de ces tablaos vivent essentiellement des touristes étrangers, beaucoup ont baissé le rideau, temporairement ou définitivement.
La culture, l'une des victimes de la pandémie en Europe, tour d'horizon plus large encore, c'est à retrouver sur notre site franceculture.fr, de la Grande-Bretagne à l'Allemagne. Et puis par ailleurs, notez que dans le journal de midi et demi aujourd'hui sur France Culture, nous irons à ce propos en Cisjordanie. Le réarmement de la Suède, c'est aussi d'actualité en ce moment pour un pays qui n'a pas connu de conflit sur son territoire depuis 2 siècles. Mais le royaume nordique veut contrer la menace russe. La Suède a d'ailleurs déjà commencé. Frédéric Faux s'en est rendu compte sur l'île de Gotland sur un champ de tir.
Le colonel Mathias Hardin est satisfait. Depuis près de 2 ans, à Visby, capitale de l'île de Gotland, le champ de tir résonne à nouveau des salves de fusils automatiques.
On ne va pas s'équiper comme on l'avait fait pendant la guerre froide, mais on construit une nouvelle caserne pour entraîner nos hommes, entretenir nos équipements. Et bien sûr, ces appelés qui s'entraînent maintenant depuis presque un an seront une base importante pour le recrutement de nos futurs soldats et officiers.
Le service militaire a été rétabli il y a 2 ans, et sur cet avant-poste stratégique, situé face aux côtes de l'ancien bloc de l'Est, la caserne a rouvert ses portes. Mais ce n'est qu'un début. La Suède a voté ce mardi une augmentation historique de son budget militaire, qui va passer dans ces 5 prochaines années de 6 à 9 milliards d'euros. Pour Peter Hultqvist, ministre de la Défense, c'était une nécessité.
On a vu avec l'annexion de la Crimée et le conflit en cours en Ukraine une augmentation de l'activité militaire des Russes dans notre voisinage immédiat et en Arctique. Il était important pour nous d'améliorer nos capacités militaires. C'est un investissement énorme.
Cette décision va permettre la réouverture d'autres casernes fermées au début des années 2000, notamment à Falun, cité minière située au centre de la Suède, ou Arvidsjaur, en Laponie. Ces bourgades, qui avaient perdu leurs forces vives quand leurs militaires s'en sont allés, espèrent aujourd'hui un nouveau départ.
C'était Frédéric Faux pour France Culture. Les communications sont rétablies, ça y est, en Éthiopie, dans la capitale du Tigré, mais certaines zones de cette région sont vides, et ce après la fuite de dizaines de milliers d'habitants à cause du conflit sur place. Certains se sont réfugiés dans des camps au Soudan voisin, où la situation toutefois, la situation humanitaire se dégrade. C'est ce qu'a constaté notre correspondant Elliot Brachet.
Une quarantaine de réfugiés patientent les uns sur les autres dans la clinique gérée par Médecins Sans Frontières. Edat Mengeste vient récupérer son fils, tabassé la veille par des miliciens de l'autre côté de la frontière. Cette mère de 3 enfants ne sait plus quoi faire.
On n'a rien, même pas de vêtements de rechange. Tout est resté là-bas en Éthiopie. Ici, à Hamdayet, il n'y a pas assez de nourriture, pas assez d'abris. Les seuls abris, on les a construits de nos propres mains. Ils ne nous distribuent rien.
Dans le camp, l'état de santé des réfugiés se dégrade et les maladies prolifèrent, selon Jason Rizzo, chef de projet pour MSF.
La grande majorité des réfugiés sont toujours dans ce camp à la frontière et ils ne reçoivent pas les services de base. La plupart de nos consultations concernent des infections respiratoires, des cas de malaria, de diarrhée. Hier, par exemple, c'était une journée record. On a reçu plus de 400 patients.
Les Nations Unies et les autorités soudanaises veulent transférer les réfugiés vers un autre camp, loin de la frontière. Mais beaucoup refusent. Gabriel Selassie remplit un jerrican devant la clinique. Il est arrivé il y a 2 jours.
Ils continuent à nous pousser à aller à Oumrakouba, mais c'est impossible pour nous. Ça voudrait dire renoncer à rentrer chez nous, renoncer à retrouver nos familles que nous avons laissées derrière. C'est pour ça que nous restons ici à attendre.
Environ 20 000 personnes sont toujours à Hamdayet. Comme Gabriel Selassie, ils espèrent que la paix reviendra vite de l'autre côté de la rivière.
C'était Elliot Braché au Soudan pour France Culture. Rapidement, la météo du jour en France métropolitaine, c'est plutôt sec et ensoleillé avant l'arrivée de nouvelles pluies par l'ouest. Ce matin, comptez Guillaume, 6 à 13 degrés du nord au sud.
Merci Clara Lecoqueret à 8h16 sur France Culture. Dans quelques instants, on va retourner aux États-Unis. C'est officiel depuis lundi. Joe Biden sera le prochain président des États-Unis. Quelle politique va-t-il mener? On en parle en compagnie de Jean-Éric Brana et d'Anne Desine, deux spécialistes des États-Unis. Et puis dans quelques secondes, votre billet politique, Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Avec ce matin, un serpent de mer.
Oui, on la croyait enfouie, enterrée, oubliée. Elle refait son apparition, la réforme des retraites.